Amérique, Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Gilles, merci, les 9h10 à Port-au-Prince. 10 jours de guerre des gangs à Cité Soleil en Haïti, un bilan toujours plus lourd, la violence des gangs qui pèse, on va le voir, sur la scolarité et les examens. On reviendra aussi sur l'accord trouvé au Panama entre le gouvernement et les manifestants dans l'espoir de débloquer les routes du pays. Et puis le retour des touristes en Martinique, Serge Massot, c'est à la une du journal de la première avec vous. Le trafic aérien retrouve son niveau d'avant Covid.
Oui, le trafic aérien cette année devrait représenter 80% du trafic de 2019, c'est-à-dire avant la crise Covid. Les voyageurs sont de retour en Martinique.
Alors, rendez-vous dans une quinzaine de minutes, Serge, et bienvenue à tous.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Des morts par centaines, un macabre décompte sans doute loin d'être terminé. Dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, à l'ouest de la capitale haïtienne, la guerre des gangs à Cité Soleil se poursuit. Des échanges de tirs à l'arme automatique pour le contrôle du territoire qui terrorise les habitants. Samedi, l'ONU avançait le chiffre de 234 personnes tuées ou blessées entre le 8 et le 12 juillet. Mais ce bilan pourrait être encore plus lourd. Bonjour Marie Normand.
Bonjour.
Le massacre de Cité Soleil fait la une aujourd'hui du Nouvel Est.
Oui, et le nombre de victimes ne cesse de croître, victimes de la violence des gangs dans la commune la plus défavorisée de l'agglomération de Port-au-Prince. Il est passé de 89 morts le mercredi 13 juillet à environ 300 personnes tuées ce week-end. La plupart des victimes sont des civils, notamment des femmes et des enfants, selon le directeur du Réseau national de défense des droits humains. Interrogé par le Nouvel Est, Pierre Espérance lance que la population de Cité Soleil est victime d'une attaque d'État. Cette même politique avait débuté, selon lui, sous le règne de l'ancien président Jovenel Moïse. Elle résulte à attaquer les habitants des quartiers défavorisés pour les placer sous la domination des gangs dans la perspective électorale. Il appelle la population à renverser la situation sans heurts, à se mobiliser contre les bandits à cravate.
D'autant que depuis le début de l'année, les guérillas urbaines entre gangs se sont multipliées dans l'aire métropolitaine, Croix des Bouquets, la Saline ou bien dernièrement la plaine du cul-de-sac. Un contexte qui a évidemment pesé sur l'organisation des examens scolaires de fin d'année comme le bac. Le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, le reconnaît, ne serait-ce que pour assurer que les centres d'examen soient par exemple alimentés en électricité via des génératrices électriques. Il l'a expliqué à Amélie Baron.
Il a fallu presque un exploit logistique et sécuritaire. Déjà dans un contexte où, pour trouver l'essence qu'il faut pour alimenter les 572 centres d'examen à travers le territoire national, il a fallu déjà presque plusieurs semaines à l'avance constituer une petite réserve stratégique. Dans un second temps, il a fallu mobiliser quand même 10 000 personnels administratifs, personnels logistiques, pour que le matériel sensible puisse arriver véritablement.
Défi pour l'administration, ça a surtout été délicat pour les élèves de terminale qui n'ont souvent pas pu avoir cours à cause des violences.
Presque 33% des écoles sont restées en grande partie ou dysfonctionnelles ou touchées directement par le phénomène d'insécurité, par le phénomène de violence. Donc beaucoup d'élèves ont perdu plusieurs semaines de classe et au cours des mois d'avril et de mai. Heureusement, ils ont pu revenir et grâce notamment à des cours qui ont été donnés au niveau de la radio nationale dans les zones difficiles pour faire des compensations d'apprentissage. Mais je peux dire qu'il faudrait absolument que ces conditions s'améliorent pour que l'année prochaine, on puisse travailler dans de meilleures conditions.
Des quartiers entiers de la capitale étant sous l'emprise des gangs, le ministère de l'Éducation a cette année autorisé tout bachelier à pouvoir composer dans n'importe quel centre d'examen.
Ça n'a pas été si difficile parce que les parents et les élèves étaient déjà relativement préoccupés par cette situation. On avait déjà pris les dispositions. Donc, il y a plusieurs zones pour lesquelles on avait déplacé les centres d'examen. Pendant ces 4 jours, cela s'est relativement bien passé parce qu'on était prévenus. On avait déplacé certains centres dans certaines zones jugées difficiles d'accès, tant pour les élèves que pour les surveillants, que pour l'administration du ministère. Mais on a quand même pu faire tourner 572 centres à travers le pays, ce qui n'est pas simple.
Passer le bac, mais pourquoi faire après? Le ministre de l'Éducation veut réformer le système parce qu'il n'offre aujourd'hui que trop peu de débouchés à une trop petite minorité de jeunes.
Déjà, il faut savoir qu'en Haïti, il y a moins de 7% de jeunes qui rentrent à l'école, qui arrivent à ce stade. Donc, quand on parle du bac en Haïti, c'est énorme le taux de déperdition. C'est un exercice important pour ceux qui y accèdent. Mais c'est presque une autopsie parce qu'il est trop tard. Il y a 90% qui n'y accèdent pas. Et ceci, c'est très grave quand on parle du baccalauréat en Haïti. Et là, on parle de l'enseignement général. Ces jeunes n'ont pas d'autre choix. La seule porte qui leur est ouverte, c'est passer un concours pour entrer à la fac, pour aller passer encore 4 années, 5 années, espérer avoir un diplôme, espérer avoir un emploi. C'est un chemin de croix et c'est pourquoi dès cette année, on démarre avec le baccalauréat technique, on démarre avec une autre option qu'on veut donner aux jeunes Haïtiens pour que quand ils ont 18 ans, 19 ans, ils puissent avoir accès à un baccalauréat technique. Déjà, le diplôme correspond à un métier. Ceux qui sortent cette année, c'est 100 000. Ils auront un diplôme qui ne leur donne accès qu'à un concours pour entrer à la fac. C'est toutes ces données qu'il faut revoir en Haïti au niveau du système scolaire haïtien pour que les jeunes aient le plus tôt possible accès à des emplois dignes, des emplois rémunérés, des emplois légaux qui les met hors de portée de tous les groupes et mafieux qui les recrutent malheureusement.
Nesmi Maniga, le ministre haïtien de l'Éducation, avec Amélie Baron. Il est 9h15 à Port-au-Prince, une heure de moins au Panama. Le Panama, où l'on a manifesté ces derniers jours contre la cherté de la vie et la corruption, avec notamment des blocages de routes. Hier, Marie, un accord a été trouvé.
Oui, pour tenter de mettre un terme à ces 2 semaines de contestation, accord avec une partie des organisations syndicales sur le prix du gallon d'essence qui a flambé de moitié depuis le mois de janvier. Il a donc été gelé à 3,30 $ pour une période de 3 mois, note la Estrella de Panama. Le journal El Siglo confirme que certaines routes ont ensuite été débloquées, mais d'autres sont toujours coupées, notamment cette fameuse panaméricaine, car certains syndicats n'approuvent pas l'accord signé par seulement une partie d'entre eux. À l'image de Saúl Méndez, il est secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la construction et lui appelle, vous allez le voir, à une nouvelle action aujourd'hui dans les rues du Panama.
Le gouvernement doit ouvrir un dialogue sérieux avec les représentants des organisations qui sont toujours dans la rue. Le peuple doit radicaliser son mouvement et mettre un terme à cette mascarade. Le peuple est dans la rue non seulement pour le prix des carburants, mais aussi pour le prix des médicaments, de l'électricité, de la nourriture et pour que change le modèle d'exploitation du peuple panaméen, le modèle économique néolibéral.
Saúl Méndez à l'instant sur le réseau social de son syndicat. Le journal La Prensa note que c'est au milieu de cette agitation sociale que s'ouvre aujourd'hui le procès Odebrecht, affaire qui est sans doute l'un des ingrédients du mécontentement populaire actuel. Ce peuple qui a toléré des années de corruption, La Prensa s'inquiète de voir l'État emprunter ou s'endetter davantage pour apaiser ce conflit social. Au contraire, l'éditorialiste appelle le gouvernement panaméen à faire un vrai sacrifice, à arrêter le gaspillage et le clientélisme.
De l'Espagne à la Grèce en passant par la France, l'Europe tout entière fait face à des températures inédites. Mais la canicule actuelle accable aussi le nord du continent américain et notamment le Canada. Un mercure au plus haut qui favorise les incendies, des feux qui poussent des communautés autochtones à quitter leur domicile. Et on s'inquiète notamment, Alexis Gacon, du sort d'une petite ville de Colombie-Britannique qui avait été détruite l'an dernier par les flammes à plus de 90%.
Les habitants du village de Lytton, qui a presque été rayé de la carte l'été dernier, n'ont pas eu le temps de reconstruire leur maison que déjà les flammes approchent à nouveau. Le feu est situé à 2 km au nord-ouest du village. Il a peu grossi dans les dernières heures car il y a eu davantage d'humidité dans l'air, mais il recouvre quand même plus de 1700 hectares et une dizaine de maisons des environs ont déjà été détruites par les flammes. Alors les équipes restent sur le qui-vive et l'incendie est toujours considéré comme hors de contrôle. Le centre du pays goûte aussi aux flammes. Au Manitoba, la communauté autochtone de Pukatawagan est assiégée par un feu de forêt de 230 km² à moins d'un kilomètre de son territoire. Des avions citernes et des pompiers des provinces avoisinantes sont venus aider les équipes du Manitoba. La plupart des habitants de la communauté ont pu être évacués, mais la fumée complique les opérations, alors les secours font du porte-à-porte pour s'assurer que le maximum d'habitants puissent quitter les lieux. Alexis Gacon, Montréal, RFI.
Les communautés autochtones, c'est un tout autre sujet. Marie qui tente de s'organiser au Canada en vue de la visite du pape François, visite qui débute dimanche.
Oui, il doit visiter Edmonton, dans l'Alberta, avant le Québec et le Nunavut. Un voyage présenté comme un pèlerinage de pénitence, écrit le Montréal Gazette. Le pape François doit présenter en effet ses excuses pour le rôle de l'Église dans le système des pensionnats canadiens, dans lesquels ont été enrôlés de force plus de 150 000 enfants. des milliers n'en sont jamais revenus. Les survivants de ces pensionnats tentent donc d'assister aux 5 rencontres prévues avec le pape, sauf que beaucoup peinent toujours à obtenir des billets à J-6, explique le Globe and Mail, en cause un problème de communication avec l'Église catholique et le gouvernement fédéral qui n'explique pas clairement comment obtenir le financement promis pour y assister.
De l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, là, les Amérindiens tentent de récupérer les objets personnels de leurs ancêtres, Marie.
Et oui, comme ceux qui moisissent sur les étagères de cet obscur musée d'une bibliothèque publique de Bear dans le Massachusetts. Y sont exposés quelques 200 objets volés sur les corps des victimes du pire massacre d'Amérindiens de l'histoire des États-Unis, rapporte le Washington Post aujourd'hui. 250 hommes, femmes et enfants Yakota massacrés par l'armée américaine en 1890 lors du massacre de Wounded Knee dans le Dakota du Sud. Et bien, malgré les demandes des membres de la communauté, le musée refuse toujours de s'en séparer.
Restons aux États-Unis avec les mots de Ted Cruz, sénateur du Texas, dans son dernier podcast.
Obergefell, like Roe versus Wade, ignored two centuries of our nation's history. Marriage was always an issue.
Après le revirement de la Cour suprême sur l'avortement, Ted Cruz estime, Marie, que l'institution devrait revenir sur un arrêt de 2015.
Oui, celui qui a légalisé le mariage entre personnes de même sexe, cette décision clairement erronée au moment où elle a été prise, la Cour est allée trop loin, estime Ted Cruz, pour qui les États devraient pouvoir décider maintenant de leur propre loi. Une idée déjà suggérée, on s'en souvient, Mickaël, par l'un des juges de la Cour suprême, le juge Clarence Thomas.
Merci Marie. Au sujet des États-Unis, je mentionne l'ouverture de 2 procès aujourd'hui. En Floride, celui du tueur d'un lycée de Parkland, une des pires tueries en milieu scolaire qui avait fait en 2018 17 morts. Et puis autre procès, celui de Steve Bannon, l'ex-conseiller du président Donald Trump, pour son refus de coopérer dans l'enquête du Congrès sur l'attaque du Capitole par les partisans de Donald Trump. C'était le 6 janvier 2021.
Radio Francia Internationale, las voces del mundo.
Plus léger, je vous emmène maintenant à Caracas, au Venezuela. Pour terminer, on part à la rencontre d'une chirurgienne pas banale, une enseignante de 63 ans qui chaque semaine transforme sa maison en hôpital pour peluches et poupées qui, une fois remises en état, sont distribuées aux enfants dans le besoin. Dossier signé Nils Sabin.
Hola, buenos días. Aquí el hospital de peluches.
Bonjour, ici l'hôpital des peluches. Nous avons là une grande quantité de peluches ici à Caracas. Nous commençons à les trier. Il y a des ours, des chiens peluche, des poupées à laver, à réparer et tout ça pour les enfants du Venezuela.
Liliane Gluck est la fondatrice de l'hôpital des peluches. Elle reçoit régulièrement des caisses entières de jouets usagés chez elle à Caracas et 2 fois par semaine, elle réunit une vingtaine de bénévoles pour les remettre en état.
En 2017, mes enfants sont partis étudier à l'étranger. Ils ont laissé des jouets, des animaux en peluche et des jeux éducatifs à la maison. J'ai décidé de les réparer, de les laver et de les remettre à neuf. Et au mois de décembre, à l'époque des cadeaux, j'ai offert pour la première fois des jouets usagés, mais en très bon état, plutôt que des jouets neufs. Nous avons pu collecter une quantité importante d'animaux en peluche et de jouets et nous les avons envoyés dans un hôpital de Caracas.
Depuis la création de l'hôpital, il y a plus de 5 ans, près de 30 000 peluches ont été réparées et offertes à des enfants.
Notre premier message vise à éduquer, à faire comprendre l'importance du recyclage et de la réutilisation, la valeur des choses d'une certaine façon. Ce qui ne te sert plus peut être très utile à quelqu'un d'autre s'il est réparé. Le deuxième message que nous portons est celui du respect de chaque enfant. Nos peluches sont en parfait état car aucun enfant, quelle que soit sa vulnérabilité, quelle que soit sa situation économique, sanitaire, son niveau d'éducation, ne mérite de recevoir un animal en peluche en mauvais état.
Liliane Gluck invite d'abord ses amis, qui invitent leurs amis, et grâce au bouche à oreille, l'hôpital des peluches compte aujourd'hui une 50aine de bénévoles. Parmi elles, Lily, psychologue.
En une après-midi, tu peux croiser des gens d'horizons très différents. Des femmes au foyer, des docteurs, des économistes, des psychologues ou même des voisines. Tout le monde aide et chacun trouve sa place.
Mais faire partie de l'hôpital des peluches, c'est aussi être confronté à la pauvreté qui touche le pays. D'après une étude de l'université catholique Andrés Bello de Caracas, les 3/4 de la population vivent sous le seuil d'extrême pauvreté.
C'est l'occasion de nous confronter aux réalités de notre pays. Et nous allons dans de nombreux endroits dont nous ne connaissions peut-être même pas l'existence. On voit qu'il y a beaucoup de gens dans le besoin, mais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui aident. Je pense que ce pays est en quelque sorte en train de sortir de la crise grâce à toute cette solidarité qui nous caractérise, nous les Vénézuéliens.
En 2017, quand l'hôpital des Peluches est créé, le Venezuela est en pleine crise économique, sociale et politique. Plusieurs millions de Vénézuéliens quittent le pays. Et pour Tamara Salmen, présidente de la Société vénézuélienne de puériculture et de pédiatrie, la création de l'hôpital des Peluches, à ce moment-là, n'a rien d'anodin.
Beaucoup de personnes sont parties, ont émigré du pays. Et beaucoup d'enfants sont restés seuls avec leurs grands-parents. Ou quelques-uns avec leurs sœurs ou frères qui étaient plus grands qu'eux. Alors, cette initiative est créée précisément dans ces moments-là. Je crois que dans le moment critique, ils en avaient besoin. De cette compagnie, de cet objet qui pouvait représenter ce qui leur manquait dans ce moment-là, surtout les plus petits, ceux qui ont moins de 7, de 6 années, et qui l'ont senti, le plus fort.
Aujourd'hui, le plus fort de la crise est passé, même si la situation reste difficile au Venezuela. Mais pour Liliane Gluck, pas question de penser à arrêter l'hôpital des Peluches. Son objectif est désormais d'en collecter et d'en offrir dans tous les États du Venezuela.
Un dossier signé Nils Sabin pour notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Serge Massot, bonjour Serge.
Bonjour Michael.
Et les vacanciers qui sont de retour en Martinique?
Oui, 5 à 6 gros porteurs atterrissent chaque jour en ce moment sur le tarmac de l'aéroport Aimé Césaire. Un retour progressif du trafic aérien après 2 années fortement perturbées par la crise du Covid-19. Écoutez les précisions de Nathalie Sébastien. Elle est la directrice adjointe de la SAMAC, la société gestionnaire de l'aéroport Aimé Césaire.
On est sur des perspectives de trafic beaucoup plus importantes que ce que nous avions pu constater en 2021 et 2020. Même si nous restons en deçà de ce que nous avons pu connaître en 2019. En moyenne, on aura peut-être 20% de trafic de moins qu'en 2019. Quand le Covid est arrivé, nous avons réfléchi en fait à la reprise parce que nous sommes fondamentalement optimistes et confiants quant à l'attractivité de notre destination. Pour l'instant, et les chiffres nous donnent raison, on pense qu'on retrouvera en 2024 le niveau de trafic que nous avions en 2019. Et c'est vrai que pour 2022, on estime que le trafic devrait représenter 80% du trafic de 2019. Et c'est vrai que la programmation des vols, ce que l'on constate depuis le début des grandes vacances, et je dirais même depuis le mois de juin, nous conforte dans cette idée avec en moyenne 8 gros porteurs au départ, donc autant à l'arrivée.
Au début du mois, les élus de la collectivité de Martinique ont voté la création d'un revenu d'émancipation. Il entrera en vigueur à la rentrée et doit permettre de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en leur offrant un revenu en échange d'une formation. Les explications de Pierre-Yves Honoré.
Jimmy Faro, le responsable de communication de la mission locale sud de Ducos.
C'est un nouveau dispositif qui permet à un jeune d'avoir un revenu et de se maintenir dans son parcours d'insertion, puisque nous savons que beaucoup de jeunes abandonnent leur formation faute de revenus. Et donc c'est un revenu qui permet d'accompagner le jeune et en lui permettant d'avoir accès à des stages, à avoir une activité.
Les bénéficiaires signalant un contrat d'engagement auprès de la mission locale pour une période de 1 an. En retour, ils perçoivent une somme allant de 500 à 685 euros par mois.
Ils ont l'obligation d'être en activité, de participer à des ateliers, de faire de la recherche d'emploi, de formation, de faire des stages dans des associations, dans des entreprises, dans des collectivités, pour découvrir des métiers, confirmer un projet professionnel. Si ce projet ne se confirme pas, repartir sur autre chose.
En plus d'un certain nombre d'ateliers qui leur sont proposés pour renforcer leur dossier, la mission locale les aura à l'œil durant toute la période.
Nous les aurons à l'œil et il faudrait que ce soit assidu, parce que s'ils ne sont pas assidus, ils risquent de ne pas avoir l'allocation.
Ce revenu s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés ni en formation et qui ne travaillent pas. Près de 1500 pourraient bénéficier de ce revenu d'émancipation.
Un reportage de Pierre-Yves Honoré de Martinique, la première. Pas terrible, la campagne sucrière 2022 qui s'est terminée ce samedi en Guadeloupe avec seulement 374 000 tonnes de canne broyée. C'est 12% de moins que l'an dernier. Une baisse continue de la production qui s'explique par 3 années successives de sécheresse. Et puis une nouvelle fusillade du côté de Bouillante en Guadeloupe, toujours hier soir. 4 blessés légers et un homme de 29 ans qui se trouve dans un état grave après un impact de plomb à la poitrine. C'est la fin de ce journal. Bonne journée sur RFI.
Merci beaucoup Serge Massot, à vous et aux équipes de La Première. Merci à Hélène Avril qui était à la réalisation de ce rendez-vous d'Haïti des Amériques. À retrouver, vous le savez, évidemment sur RFI.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Très bonne journée à tous et on se retrouve demain sur RFI.